chapitre de l'histoire.
Thibaut Delex, donc, vous êtes doctorant à l'INALCO, vous préparez une thèse sur les auteurs tchèques et polonais face à la censure entre 1968 et 1980, et l'année dernière, en 2018, vous avez publié un article dans la revue Les Cahiers Siris, la revue d'unité de recherche de la Sorbonne, sur justement ces auteurs tchèques face à la censure après 1968. Pour commencer, il y a une césure avec la répression du printemps de Prague et le début de la normalisation, quand une sorte de chape de plomb s'abat sur la société tchécoslovaque. Quel est à ce moment-là l'enjeu pour l'État tchécoslovaque, pour les communistes orthodoxes au pouvoir, de la censure littéraire?
Ce que l'on constate, c'est qu'on bascule dès lors en Tchécoslovaquie dans ce que l'on appelle le communisme post-totalitaire. C'est-à-dire que autant le communisme totalitaire prévoyait ou ambitionnait sincèrement de tendre vers une conquête planétaire et donc était engagé dans une forme de mobilisation totale de l'entièreté de son corps social, autant le communisme post-totalitaire a tout à fait fait le deuil de cette ambition démesurée et est exclusivement préoccupé de sa propre préservation. Ce que l'on voit à ce moment-là, c'est que dans le domaine littéraire, il va y avoir dès lors, alors la grosse difficulté du domaine littéraire, c'est qu'on ne va pas repenser une doctrine, donc on ne va pas décider que le réalisme socialiste est désormais une doctrine complètement passéiste et qu'on va lui en substituer une autre. Non, on choisit simplement d'en atténuer les formes et donc on permet une certaine dose d'inventivité formelle aux différents littérateurs, mais qui est une dose que je dirais perpétuellement réfrénée. C'est-à-dire qu'ils doivent toujours procéder par expérimentation timide qui se trouve accepté ou pas par les instances du parti. L'autre grand aspect, c'est évidemment que il va y avoir, avec la mise en place de l'État normalisateur, une gigantesque purge de tous les cadres de l'entièreté du parti communiste tchécoslovaque. Le parti se dégraisse fabuleusement. Ce qui est vrai au sein de ces structures se révèle vrai aussi dans le monde littéraire et on décide de dissoudre l'association des écrivains tchécoslovaques qui était à l'époque présidée par Jaroslav Seifert, le futur prix Nobel, et on va la reconstituer autour de la personne de Josef Kainar, qui est un poète mineur, aux alentours de 1970, et on ne va dès lors inviter au sein de cette association des écrivains tchécoslovaques que les écrivains qui se montrent suffisamment loyaux vis-à-vis du nouveau régime. Or, il était nécessaire d'appartenir à cette association des écrivains tchécoslovaques pour pouvoir prétendre à la publication dans les maisons d'édition qui étaient des maisons d'édition détenues comme des monopoles par l'État.
Alors, vous montrez dans votre article, vous montrez l'emboîtement de nombreux instances de censure qui ont plusieurs effets et j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu les effets de cet enchaînement d'instances censoriales.
À l'époque, ce qui se passe, c'est que on décide que la censure est inefficace si jamais elle doit intervenir de manière trop visible dans le texte. C'est gênant. On ne veut pas dire que l'on censure. Et donc, ce que l'on fait, c'est que on décide d'avoir une espèce d'emboîtement gigogne de toute une série d'institutions qui vont s'efforcer de systématiquement déléguer le travail de censure du texte à l'échelon inférieur. Alors, comment est-ce que tout ça fonctionne? Concrètement, ça veut dire que il y a le parti qui est tout puissant. Ce parti va déléguer à un comité culture la gestion de la politique culturelle et en ce qui concerne le contrôle des textes écrits, le comité culture va mettre en place ce qu'il appelle un centre de la culture du livre. Et ce centre de la culture du livre va avoir pour mission essentielle de gérer un plan annuel d'édition de tous les ouvrages qui sont appelés à paraître. Ce plan est directement concerté avec les chefs, les rédacteurs en chef des grandes maisons d'édition, qui sont des maisons d'édition contrôlées par l'État et dont les cadres sont donc des communistes aussi sélectionnés pour leur loyauté. Et ce sont ces rédacteurs en chef des maisons d'édition étatiques qui eux-mêmes vont donner instructions à leurs agents littéraires qui sont en contact avec les littérateurs. Il y a là une espèce de ruissellement de l'information depuis le sommet de l'État jusqu'à l'auteur, où circule donc toute une série d'instructions sur ce qu'il convient d'écrire et la façon dont il convient de le faire, qui en dernière instance sont essentiellement transmises par un agent littéraire au créateur avec lequel il est en contact. Et c'est là tout le succès de la censure que l'on a dit normalisatrice, c'est que désormais c'est l'auteur lui-même qui prend en charge l'essentiel du travail de censure de son texte, en ce qu'il se conforme tout de suite à la demande. Alors, l'un des constats que l'on fait lorsque l'on procède à des recherches sur l'archive, c'est que, effectivement, les protocoles de censure sont assez bien décevants parce qu'ils sont relativement vides.
L'un des effets les plus importants de ce système sensoriel que vous décrivez, c'est l'apparition, en parallèle au champ littéraire officiel, d'un champ littéraire clandestin qui lui fait concurrence. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les caractéristiques de ce champ littéraire clandestin ?
Le champ littéraire clandestin, ce qu'il y a de très très fort, c'est qu'il s'inscrit dans une logique de solidarité des proscrits. Ce sont toutes les personnes qui ont été rejetées du champ officiel de publication, qui se sont retrouvées désœuvrées et qui, dans un premier temps, ont continué d'écrire un peu par inertie. Puis finalement, Ivan Klima, au tournant de l'année 1972, a commencé à mettre en place des soirées littéraires chez lui, où, sous couvert de soirées privées, des gens venaient lire des extraits de manuscrits sur lesquels ils travaillaient pour l'instant. Et devant le plaisir que ces personnes ont retrouvé à pouvoir échanger leurs textes, est née l'idée de remettre en place un circuit de diffusion de ces textes où on publierait de façon tout à fait amateur, dans un premier temps, les textes pour pouvoir les faire diffuser au sein de ce qui, de plus en plus, commençait à se structurer comme la dissidence.
Thibaut Delex, cet article, vous l'avez écrit parce que vous préparez une thèse sur la question des auteurs tchèques et polonais face à la censure. Quel est l'intérêt pour vous de cette approche comparative entre les situations polonaises et tchèques ?
Alors le plus fascinant avec la censure, c'est de s'apercevoir à un moment qu'on vit avec l'illusion qu'il existerait une opposition entre des sphères discursives où fonctionne la censure et des sphères discursives qui seraient vierges de toute censure. Ça, c'est une illusion. Il y a toujours une forme de censure qui s'applique à la parole que l'on pratique. Maintenant, cette censure varie évidemment en forme, en qualité et en intensité. De commencer à étudier la censure, c'est par ricochet aussi d'étudier toute une série de formes qui, moyennant certaines mutations, existent toujours de nos jours. Alors, l'autre aspect, c'est que moi, pour des raisons personnelles, j'ai développé un intérêt un peu obsessionnel pour l'Europe centrale. Et donc le tchèque et le polonais étaient deux langues que je pratiquais et pour lesquelles je pouvais avoir un accès direct au texte dans leur version originale. Et donc, m'assurer d'avoir une lecture qui soit, je dirais, au plus près du texte et qui permette d'essayer d'y capter tout le réseau d'allusions qu'on voit s'y déployer. Et enfin, la dernière chose, c'est que la Pologne et la Tchécoslovaquie ont connu des trajectoires historiques qui présentent de nombreuses similarités, mais qui n'en sont pas moins distinctes. Et donc là, on a le luxe d'un cas d'étude relativement homogène, mais qui présente toute une série de variations qui suscitent des effets littéraires distincts et qui s'offrent dès lors bien à une analyse comparative.
Alors, si c'est pas trop personnel, quelles sont les causes ou les raisons de ces intérêts obsessionnels pour l'Europe centrale ?
L'histoire est parfois faite de hasard. Et lorsque j'étais jeune adolescent, un professeur du collège nous avait emmenés tous à Prague. Et là, il y a eu une espèce de coup de foudre immédiat. Par la suite, j'y suis retourné vivre et j'ai travaillé comme travailleur social, en fait, dans les quartiers paupérisés à forte composante rome de Prague. Ben voilà, au contact des jeunes gens avec lesquels je travaillais, j'ai appris le tchèque. Et par la suite, je suis rentré à Bruxelles, puisque je suis d'origine belge. Et là, j'ai suivi des études de philologie slave, l'université libre de Bruxelles. Et par la suite, j'ai rencontré ma compagne qui est elle-même polonaise. Et donc, voilà, il se fait que dès lors, je continue de vivre avec un pied ici à Bruxelles, un pied là-bas en Europe centrale. Et c'est une espèce de dialogue permanent qui structure toute ma vie jusqu'à aujourd'hui.
Merci beaucoup Thibaut Delex d'avoir répondu à mes questions.
Écoutez, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir.